Radio Shalom. Le journal vous est présenté par Pierre Gondus.
Bonsoir, édition spéciale ce soir. Après l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, nous serons dans quelques secondes en direct depuis Israël avec l'un de nos correspondants permanents en Israël, Dror Eben Sapir. Puis nous serons en ligne également avec Freddy Etan, ancien diplomate israélien, avec Emmanuel Narchon, qui est l'ancien directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Et puis nous aurons également comme invité Kaveh Mousseini, qui est journaliste iranien. Il y a eu aujourd'hui une alerte au-dessus de Tel Aviv. L'armée israélienne a déclaré que le missile balistique sol-sol lancé depuis le Yémen vers le centre d'Israël a été abattu par les défenses aériennes à l'extérieur des frontières du pays. Dror Eben Sapir, bonsoir.
Bonsoir.
Dror Eben Sapir, vous êtes l'un de nos correspondants permanents en Israël. Israël qui est en état d'alerte élevée. Tous les responsables de la sécurité ont prévenu les Israéliens après l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a d'abord été confirmé par l'armée israélienne, puis confirmé par le Hezbollah. Dites-nous tout d'abord ce soir quelle est la situation et l'ambiance en Israël.
Eh bien, tout d'abord, l'armée israélienne poursuit ses frappes contre les cibles du Hezbollah au Liban, y compris à Beyrouth même, donc des frappes préventives pour empêcher le Hezbollah de riposter d'une manière cinglante à la mort de son chef. Il est communément admis par la plupart des responsables militaires israéliens, la plupart des experts, que le Hezbollah désormais est une organisation considérablement affaibli d'une part, une grande partie de ses capacités en termes de missiles, une grande partie de son arsenal a été détruit, même si il a maintenu tout de même une part importante de ses missiles de longue portée et de moyenne portée capables d'atteindre à peu près tout endroit en Israël. Et puis c'est une organisation décapitée. La mort de celui qui dirigeait l'organisation depuis plus de 30 ans, 35 ans maintenant, Hassan Nasrallah, la mort d'autres chefs importants de la milice chiite, puisque c'est une véritable campagne d'élimination des leaders du Hezbollah à laquelle on assiste depuis maintenant plusieurs semaines. Donc là, ce n'est peut-être pas le coup de grâce, mais en tout cas, c'est un coup très dur infligé à la milice chiite libanaise, ce qui ne signifie pas, encore une fois, qu'elle a perdu entièrement ses capacités nuisibles et offensives concernant Israël et qui vise Israël directement. Cela ne signifie pas non plus que le danger est écarté, puisque le Hezbollah, vous le savez, appartient à un vaste réseau dirigé par l'Iran, réseau de milices qu'on pourrait qualifier de milices supplétives du régime des Mollahs. Bien évidemment, le Hezbollah est la plus puissante, la plus lourdement armée, mais vous avez aussi les Houthis du Yémen qui, vous l'avez rappelé, ont tiré un missile balistique vers Tel Aviv aujourd'hui, et également des groupes armés de moindre importance qui agissent en territoire irakien ou en territoire syrien et qui, eux aussi, sont munis de missiles, pour certains capables d'atteindre le territoire israélien.
Dror Eben Sapir, hier, le Premier ministre israélien était à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est rentré précipitamment. Il tient en ce moment même des consultations de sécurité. Et on a appris dans le même temps que l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le guide suprême iranien, a décrété 5 jours de deuil national après l'élimination de Hassan Nasrallah. Est-ce que cela veut dire que pendant ces 5 jours, rien ne va se passer au niveau du Hezbollah ou des proxys de l'Iran dans la région ?
Ce n'est pas certain. Il n'est pas du tout hors de toute considération que le Hezbollah ou ses alliés puissent intervenir dans les jours qui viennent. C'est une possibilité qui est prise en considération par les responsables militaires et sécuritaires en Israël. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que le Hezbollah, l'Iran, tout cet axe chiite dans la région, patiemment mis en œuvre par l'Iran au cours des années, au cours des décennies même, eh bien, cet axe est aujourd'hui profondément désorganisé, sous le choc, ce qui fait dire à certains experts en Israël que c'est le moment de frapper encore plus durement ce qui reste de capacité, notamment en termes balistiques, en termes de missiles, au Hezbollah, à la milice chiite, mais l'éventualité d'une riposte iranienne est considérée en Israël comme une certitude. Elle ne sera pas peut-être immédiate, mais on peut s'attendre à ce que dans les semaines, peut-être même dans les mois qui viennent, l'Iran riposte d'une manière cinglante, même si manifestement elle tentera d'éviter le scénario d'un embrasement généralisé qui pourrait mettre en danger son objectif stratégique, à savoir l'acquisition de capacités nucléaires offensives, objectif que Israël, en principe, s'est juré de mettre à mal.
Dror Even Sapir, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes l'un de nos correspondants permanents en Israël. Bonsoir, Dror.
Bonsoir.
Quelques 90 roquettes ont été tirées sur Israël depuis le Liban. Aujourd'hui, la plupart des attaques du Hezbollah visaient le nord d'Israël, bien que plusieurs missiles à longue portée ont également été tirés en direction de Tel Aviv et de la Judée-Samarie. Les attaques d'aujourd'hui n'ont pas fait de blessés ni de dégâts importants. Et puis, Dror Even Sapir le rappelait, il y a eu une nouvelle frappe tout à l'heure, frappe israélienne dans le quartier de Daïa, une frappe de précision, c'est ce que annonce l'armée israélienne. Le quartier de Daïa, c'est le quartier où se trouvait le QG du Hezbollah, où Hassan Nasrallah a été éliminé. Et puis je vous le disais, Israël est en état d'alerte élevé face à un conflit plus large après l'élimination du chef du Hezbollah à Beyrouth, mais Israël espère que son élimination amènera la milice chiite soutenue par l'Iran à changer de cap, c'est ce que déclare un porte-parole militaire israélien. D'autre part, le général Herzi Halevi, qui est le chef d'état-major de l'armée israélienne, a affirmé aujourd'hui qu'Israël continuera à combattre le Hezbollah pour éliminer la menace qu'il représente pour les civils israéliens. Des jours difficiles nous attendent, prévient-il, après avoir approuvé des plans de bataille du commandement nord. Les troupes de l'armée israélienne sont en état d'alerte maximale, en défense et en attaque sur tous les fronts. Freddy Etan, bonsoir.
Oui, bonsoir Pierre.
Freddy Etan, vous êtes un ancien diplomate israélien. Depuis maintenant quoi, deux semaines, trois semaines, on voit toute la direction du Hezbollah être éliminée par les beepers, par les talkie-walkie, par des frappes ciblées. La dernière en date est celle de vendredi soir concernant Hassan Nasrallah. Plusieurs responsables sécuritaires israéliens ont déclaré aujourd'hui au New York Times que Israël connaissait l'emplacement, la localisation de Hassan Nasrallah depuis plusieurs mois et que la fenêtre d'opportunité était vendredi soir.
Oui, c'est vrai. Et la décision a été prise après consultation de Netanyahou et après une réunion donc du Conseil de guerre israélien et avant le départ donc de Netanyahou. La décision a été prise avant le départ de Netanyahou à New York. Et donc juste après, c'est-à-dire une heure après le discours de Netanyahou, on savait que on avait le moment précis où le haut commandement était réuni. Et donc, Tzahal, après le discours, Tzahal est passé aux actes. Et donc, a éliminé Hassan Nasrallah et tout le commandement du Hezbollah par cette frappe, je dirais, audacieuse, spectaculaire à Beyrouth. Et cela a été fait, évidemment, comme vous devez le mentionner, après de plusieurs mois, je dirais, de préparation. et aussi savoir exactement comment lancer ces bombes. Je vous rappelle que chaque bombe avait plus de 80 toutes les bombes étaient de 80 tonnes, et donc il y a eu plus de 80 bombes qui ont été lancées une après l'autre, et cela a éliminé complètement, a détruit donc ces immeubles où le Hezbollah était au souterrain, où on parle même du 10e étage sous terre. Mm-hmm. Pour vous dire que la situation était telle, et là c'est le problème. D'abord, aucune armée au monde lance des appels à évacuer des immeubles avant les bombardements. Mais il faut dire aussi que ces résidents vivaient sur un volcan, c'est-à-dire sur des barils de dynamite qui étaient installés dans les parkings, dans les souterrains. Et le Hezbollah avait installé donc ses missiles, ses munitions et ses explosifs, et le quartier général était là-bas. Donc on savait, on avait toutes les informations possibles avec une technologie de pointe, un service de renseignement qui est à la fois surtout du Mossad, mais aussi avec d'autres services, Amman militaire. Et donc la situation est tout à fait différente. Donc après les défaillances donc, du 7 octobre, Israël redore son blason, redevient, je dirais, une forte puissance régionale, respectée dans cette jungle donc, du Moyen-Orient. Il faut dire aussi que la guerre n'est pas achevée, ça, il faut le savoir. Et la riposte ne va pas tarder. D'ailleurs, quand Bibi Netanyahu est arrivé en Israël après 48 heures de sa visite éclair donc, à New York, l'aéroport et les vols ont été arrêtés. Il n'y a pas eu ni d'atterrissage ni de décollage. Et il y a eu parce que ce missile en provenance du Yémen a été intercepté. Mmh. Et donc Benjamin Netanyahu est parti directement donc, au quartier général de l'état-major de Tzal à Tel Aviv pour poursuivre donc les frappes. Et vous l'avez mentionné, la dernière frappe, c'est l'un des membres donc ce qu'on appelle de la Shura, c'est-à-dire le conseil des sages donc des chiites.
Alors Freddy Ethan, vous étiez notre invité mercredi et on évoquait justement avec vous la décision de Benjamin Netanyahu de s'exprimer, en tout cas c'est vous qui l'avez rappelé, de s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations Unies, et vous nous disiez qu'il fallait pas laisser le siège israélien vide. D'ailleurs, quand on a écouté le discours de Benjamin Netanyahu, on aurait pu avoir ce discours-là l'année dernière, c'était à peu près le même, on a changé un peu l'ordre des priorités, les cartes ont été différentes, et celui d'avant c'était à peu près la même chose, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la décision d'éliminer Hassan Nasrallah avait déjà été prise, et il y a plusieurs commentateurs qui disaient « mais pourquoi avoir autant insisté en plus pour s'exprimer un vendredi après-midi alors que la plupart des délégations étaient parties, qu'il n'y avait plus beaucoup de monde dans la salle, etc. Pourquoi insister autant pour venir ?» Et alors, il y a un mot dans le discours qu'a prononcé Benjamin Netanyahu vendredi à l'Assemblée générale des Nations Unies, tout au long de son discours, et à un moment, il dit « et nous gagnerons ». Et à ce moment-là, je veux dire, on est beaucoup plus intelligent a posteriori qu'a priori, on comprend maintenant que peut-être ce discours était, je dirais, un leurre pour le Hezbollah, pour l'Iran, en disant « bon, de toute façon, Israël ne va rien faire puisque le Premier ministre s'exprime à New York ».
Alors, écoutez, d'abord, le discours a été modifié plusieurs reprises dans l'avion et même quelques minutes avant de monter à la tribune de l'ONU. Benjamin Netanyahu, je vous rappelle, était ambassadeur à l'ONU dans les années 80-90. Et donc, il connaît parfaitement donc, cette assemblée, cet hémicycle. Et je crois que son discours a eu quand même des nouveautés, parce qu'il a comparé ce qu'il prononçait lors du discours précédent, c'est-à-dire retour à la diplomatie et le retour, si vous voulez, à une normalisation avec l'Arabie saoudite, parce que je vous rappelle que c'est l'Iran qui a brisé, qui a cassé tous les efforts entre nous et l'Arabie saoudite. Mmh. Et donc, c'est Nasrallah, en fait. Donc, comme vous le savez, Nasrallah est détesté dans le monde arabe, non seulement au Liban, mais partout, par les sunnites aussi, et par l'Arabie saoudite et par tous les Émirats du Golfe Persique. Donc, il y a une opportunité, et c'est pour ça qu'il est revenu sur son discours et il a fait le parallèle. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un monde obscur dans les tréfonds du Moyen-Âge, comme l'Iran le souhaite, et comme ce régime sombre qui continue à pendre des homosexuels et qui frappe et qui met en prison des opposants, ou sinon vous voulez être avec Israël dans le combat inlassable contre le terrorisme, contre les islamistes de tous bords d'ailleurs, à Gaza donc des sunnites et au Liban ce sont des chiites, et donc être ensemble dans ce combat inlassable contre les islamistes pour un meilleur monde. Et d'ailleurs, l'opération contre Nasrallah s'appelle, comme vous le savez,
un nouvel ordre.
Exactement. Donc si, ce nouvel ordre, c'est-à-dire de poursuivre la guerre contre les islamistes, mais aussi saisir, parce que de la diplomatie avec les sunnites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la diplomatie a une forte, il a une force qui est puissante. Pourquoi ? Parce que après les généraux, après la guerre, au lendemain donc des hostilités, il y a une trêve. Et qui s'occupe de régler tout cela ? Qui va créer demain une zone tampon ? Qui va négocier ? Ce sont les diplomates. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, certes la guerre n'est pas achevée, mais on assiste aujourd'hui à un tournant dans le conflit. D'abord, la dissuasion est plus forte que jamais, et aussi les frappes de l'aviation israélienne ont déjà des retombées à Téhéran, à Damas, à Bagdad, mais à Gaza et à Ramallah. Donc là, on doit saisir cette opportunité, ce temps propice que nous avons ici le dessus, où nous sommes là, nous avons redoré notre blason, on nous craint, ce n'est plus, nous ne sommes plus menacés, c'est nous qui dictons l'ordre du jour. Mais cela dit, il faut le faire avec les Américains, avec nos alliés, et donc faire en sorte que nous pouvons relancer, si vous voulez, ce qu'on appelait les accords d'Abraham.
Freddy Ethan, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien. Merci et bonsoir Freddy.
Bonsoir.
L'armée israélienne qui indique qu'aux côtés de Hassan Nasrallah, le commandant du front sud du Hezbollah, Ali Karaki, a également été éliminé, ainsi que d'autres commandants. Hassan Nasrallah a été pris pour cible alors qu'il se trouvait au siège principal du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Et puis, le commandant adjoint des gardiens de la révolution iranienne, Abbas Nilfourouchoun, a été éliminé lors de frappes israéliennes à Beyrouth hier soir, en même temps que Hassan Nasrallah. Emmanuel Narchon, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Narchon, vous êtes ancien diplomate israélien, vous avez été le directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Merci d'être en direct avec nous après l'élimination de Hassan Nasrallah. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Aujourd'hui, la dissuasion est revenue du côté israélien de façon claire et nette. Juste avant vous, Freddy Ethan nous disait que les bombardements israéliens ont des répercussions ce soir à Bagdad, à Téhéran, à Ramallah, à Gaza, à Damas. On sent bien que on vit un tournant dans cette histoire du Proche-Orient. L'opération israélienne s'appelle Nouvel Ordre. Est-ce que on est en train d'assister à un nouvel ordre régional ?
Ben, c'est ce que j'espère sincèrement, hein, parce que vous avez tout à fait raison de parler de dissuasion, et enfin, après malheureusement une année très difficile, on voit que Israël reprend en fait son pouvoir de dissuasion en main, et effectivement c'est l'occasion d'opérer un très très grand changement dans la région. Il y a d'ailleurs une capitale dans notre région que vous n'avez pas mentionnée, c'est Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, et je dirais que c'est probablement le pays le plus important maintenant, parce que c'est avec les Saoudiens que nous pourrions opérer vraiment un tournant stratégique dans la région qui permettrait de renforcer les modérés et d'acculer Téhéran et les milices en fait qui opèrent au nom de l'Iran, de les pousser de côté, de manière à ce que nous puissions créer un Moyen-Orient qui soit bien meilleur pour ses habitants.
Quand on a entendu plusieurs généraux israéliens après la Seconde Guerre du Liban en 2006 dire que Israël avait retenu les enseignements et les échecs de cette Seconde Guerre du Liban en 2006, 18 ans plus tard, est-ce que ces enseignements ont abouti à ce que nous vivons depuis l'affaire des beepers?
Oui, certainement. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une bien meilleure compréhension de la complexité libanaise. Il y a aussi, tout le monde en fait a pu le constater, il y a une qualité de renseignement. Nous possédons une qualité de renseignement sur ce qui se passe au Liban, et pas seulement au Liban, qui est bien supérieure à celle que nous avions il y a 18 ans. Ce que j'espère sincèrement aussi, c'est que nous aurons l'intelligence de ne pas rentrer en fait, que des soldats israéliens ne restent pas ou ne passent pas longtemps sur le sol libanais, parce que ça, je pense que ça serait une grave erreur et ça unirait les Libanais contre nous. Mais il y a une occasion maintenant d'agir avec les forces modérées au Liban pousser le Hezbollah de côté et faire en sorte qu'il ne joue plus le rôle néfaste qu'il joue maintenant.
Mais vous pensez que l'armée israélienne devra quand même pénétrer de façon terrestre au sud du Liban?
Alors ça, je ne le sais pas, mais j'espère que ça sera pour très peu de temps. Éventuellement pour des raisons tactiques, peut-être pour détruire certaines installations, ou bien des fusées, ou d'autres armes encore que l'Hezbollah a cachées à côté de la frontière, mais pas pour y rester, parce que ça serait une grave erreur.
Alors on a bien compris aussi la stratégie israélienne, qui est de bien dissocier le front sud, la bande de Gaza et le Hamas, de ce qui se passe au nord avec le Hezbollah. Le Hezbollah qui n'a cessé de répéter dès le 8 octobre de l'année dernière, en commençant ses bombardements sur le nord d'Israël, sans que Israël n'ait fait la moindre provocation, les attaques du Hezbollah contre Israël cesserait quand il y aura un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. On a bien vu que ça ne marchait pas, mais moi j'aimerais qu'on dise un mot sur ce qui se passe également à Gaza et concernant les otages et concernant Aya Sinoa. Ce qui s'est passé avec Hassan Nasrallah, est-ce que cela peut faire changer le Hamas ?
Oui, je pense que ce que ça peut créer, en fait, c'est une nouvelle réalité qui aura un impact sur la bande de Gaza, et à deux niveaux. Le premier, c'est la peur, parce que je crois que les dirigeants du Hamas comprennent très bien, et Yahya Sinwar évidemment, de même que nous n'avons pas hésité à liquider Nasrallah, nous n'hésiterons absolument pas à liquider les chefs du Hamas et Sinwar. Donc je crois qu'il y a un élément de peur qui joue. Et puis le deuxième élément que vous aviez mentionné, c'est justement que ça dissocie entièrement les deux fronts, et en fait ça empêche ce que Sinwar souhaitait depuis le 7 octobre, à savoir une guerre régionale où toutes les forces anti-israéliennes s'unissent contre l'État d'Israël. Or nous voyons que pour l'instant ce n'est pas le cas. Le Hezbollah est beaucoup moins dangereux que ce qu'il était il y a une quinzaine de jours. Le Hamas ne représente plus la force militaire qu'il était le 7 octobre, et puis les Iraniens, on le voit, pour l'instant du moins, hésitent à se prononcer de manière très claire et de manière très offensive contre l'État d'Israël. Donc tout ça, ce sont des éléments qui jouent en notre faveur, mais pour cela, il faut profiter effectivement de ce moment, parce que nul ne sait combien de temps il durera.
Encore un mot avec vous, Emmanuel Nachshon. Aujourd'hui, c'est jour de repos en Israël. C'est Shabbat, personne ne travaille, ou en peu de gens travaillent. C'est un peu comme un dimanche en France. Qu'est-ce qu'on dit dans la rue aujourd'hui, autour de vous, parmi vos amis, une fois connue l'annonce de l'élimination de Hassan Nasrallah?
Oui, ben je crois que tout le monde est content. On n'est pas content parce que, vous savez, c'est pas une question de se réjouir parce que telle ou telle personne est morte, mais on est content surtout parce que ça démontre que l'État d'Israël n'a pas perdu de sa force, que bien que nous ayons vécu une année terrible et dramatique, la pire en fait depuis la création de l'État d'Israël, eh bien nous sommes forts, nous sommes puissants et nous sommes déterminés. Je crois que c'est ça la chose importante. Moi, je ne suis pas en faveur de démonstration de joie quant à la mort de Hassan Nasrallah. Il faut faire très attention, il faut prendre ça très au sérieux, mais d'un autre côté, je crois que c'est formidable de savoir que notre armée n'a pas perdu de sa puissance.
Emmanuel Nachshon, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien et qui avez été le directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. Merci et bonsoir Emmanuel.
Merci.
Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a déclaré qu'Israël atteindra quiconque menace le pays et ses citoyens. La boîte à outils ne s'arrête pas là. Le message est simple. À quiconque menace les citoyens de l'État d'Israël, nous saurons comment l'atteindre. Et justement, le chef du réseau du Hamas, cette fois dans le sud de la Syrie, a été tué dans une frappe aérienne la nuit dernière. Ahmed Mohamed Fahd était chargé de diriger des attaques contre les troupes israéliennes et contre Israël, principalement avec des tirs de roquettes sur le plateau du Golan. Et puis le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l'élimination de Hassan Nasrallah rend le monde plus sûr. Côté iranien, à présent, un responsable iranien a déclaré à la chaîne américaine NBC que Téhéran commencera dans les prochains jours l'enregistrement pour le déploiement de forces au Liban. L'ayatollah Mohamed Hassan Akhtari, qui est vice-ministre iranien chargé des affaires internationales, affirme que les autorités iraniennes accorderont l'autorisation de déployer des forces au Liban et du côté syrien du plateau du Golan. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, appelle les musulmans à s'unir aux côtés du peuple libanais et du Hezbollah par tous les moyens dont ils disposent et à les aider à faire face, dit-il, au régime perverse d'Israël. L'Iran, d'autre part, qui affirme aujourd'hui que la ligne de Hassan Nasrallah se poursuivra en dépit de l'élimination de son chef dans une frappe aérienne. Kaveh Mousseini, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Kaveh Mousseini, vous êtes journaliste iranien, vous dirigez le site internet iranresiste.org. Vous avez appris, tout comme nous, l'élimination de Hassan Nasrallah. Moi, j'aimerais qu'on voit avec vous ce qu'il en est du côté iranien. Cette fois, je viens de le dire, les Iraniens qui ont déclaré 5 jours de deuil national en Iran, ils promettent une riposte, mais est-ce qu'aujourd'hui les Iraniens ont pris un coup sur la tête avec l'élimination de Hassan Nasrallah ?
Ben, ils n'ont pas pris cher un coup sur la tête. L'immeuble leur est tombé sur la tête. Je pense que c'est un coup très grave pour eux, parce que Nasrallah, c'était vraiment leur grosse Bertha. Et là, le Hezbollah est totalement éliminé, laminé, et les commandants qui pouvaient armer les missiles qu'ils ont donnés au Hezbollah, qui sont éliminés. Et le fait, c'est que déjà, quand Nasrallah était là, il n'avait pas pu faire grand-chose contre Israël. Alors vous imaginez que maintenant, 5 jours de deuil national, ça veut dire que nous délayons notre intervention, l'intervention qui ne veut pas avoir lieu, l'appel à l'union contre de tout le monde musulman, c'est une blague aussi, parce que il y a environ une semaine, c'était l'anniversaire de la naissance de Mahomet, et les Mollahs organisent à cette occasion les assises de l'unité de l'islam en Iran. L'unité d'islam, c'est la thèse principale des frères musulmans. Et à cette occasion, le responsable des talibans était en Iran et il ne s'est pas levé à l'occasion de l'hymne du régime des mollahs. C'est-à-dire que la partie la plus féroce du monde islam, qui sont les talibans en ce moment, ne reconnaît pas l'autorité de Khamenei comme le chef des musulmans dans le monde. Donc, c'est un peu du vent. C'est du vent comme d'habitude.
Alors, on a vu également, alors cette fois en Syrie, suite à l'annonce de l'élimination de Hassan Nasrallah, des scènes de joie dans la région d'Idleb. C'est dans le nord-ouest de la Syrie. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des habitants de cette zone contrôlée par les rebelles célébrant l'élimination de Nasrallah, et ce avant même l'annonce officielle par l'armée israélienne et par le groupe terroriste de la mort de Hassan Nasrallah. Il faut dire que le Hezbollah a été très présent dans la guerre civile syrienne de 2011 à 2019 et que le Hezbollah a perpétré de nombreux massacres de civils syriens.
Oui, vous savez, le Hezbollah, il protège pas forcément Bachar Assad, mais le territoire syrien, parce que les mollahs envoient des armes et de l'argent vers le Hezbollah, non pas par les aéroports du Liban, mais par le territoire syrien. Et en fait, même Bachar Assad avait dit dans une interview sur France 2 il y a quelques années que ces gens-là sont présents sur son territoire, non pas pour aider son régime, mais pour leurs propres intérêts. Et avec la disparition du Hezbollah, en fait, moi je pense que l'Israël a fait très fort avec le coup de Bipper, parce que en fait, il a sapé la confiance interne au sein du Hezbollah. Aujourd'hui, il élimine des têtes, et je vois mal cette organisation se relever de cet événement. En tout cas, moi malheureusement je suis dans un endroit où j'ai pas de réseau, mais sur tout internet il y a le hashtag Merci Israël écrit en iranien, et je peux vous dire que tous les Iraniens sont très contents, et ça prouve pour eux que le régime des mollahs ne fait que des slogans, parce que pour l'instant il n'a rien pu faire contre Israël.
Encore un mot avec vous, Kaveh Mousseini. Oui. L'opération israélienne qui a visé à éliminer Hassan Nasrallah avait pour nom « Nouvel Ordre ». Est-ce que vous pensez qu'après la décapitation de toute l'infrastructure du Hezbollah au Liban et de son chef Hassan Nasrallah, est-ce que ce message aura des retombées sur les principales capitales arabes et aussi sur Téhéran, qui n'est pas une capitale arabe. Et est-ce que c'est un nouvel ordre régional qui est en train de s'amorcer, ou c'est un épisode de plus dans cette région du monde ?
Écoutez, je suis en ce moment à une réception et tous les bons Français adorent le Hezbollah. Ils pleurent pour Hassan Nasrallah et ils me disaient, mais qui a commencé tout ça et qu'est-ce qu'il y avait avant? Et j'ai dit, avant, il y avait les accords de paix de Abraham, et le Hezbollah et le Hamas refusaient cela. Je pense que ça va donner un élan à cet accord de paix qui avait été accepté par les capitales arabes. Et ça va permettre peut-être aller vers cette nouvelle ordre. C'est un bon début, je pense.
Kaveh Mousseini, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Vous qui êtes journaliste iranien et vous dirigez le site iranien internet iranresiste.org. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Au revoir.
Le chef du Hamas, lui, Aya Sinoar, et d'autres responsables du Hamas à Gaza ont cessé leur déplacement par précaution après l'élimination de Hassan Nasrallah. C'est ce que dit en tout cas la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya. Le média, qui cite des sources anonymes, indique que la sécurité d'Aya Sinoar a été modifiée ces derniers jours. De plus, toujours selon le média saoudien, les responsables du Hamas ont cessé d'assister aux réunions au Liban dans le cadre de ces mesures de précaution. La Russie, de son côté, qui condamne fermement l'élimination de Hassan Nasrallah, c'est ce que déclare son ministère des Affaires étrangères, appelant Israël à cesser les hostilités au Liban. De son côté, le Premier ministre Michel Barnier a lui qualifié d'extrêmement grave la situation au Liban et a affirmé se préoccuper de la situation et de la sécurité des Français sur place. Les autorités aéronautiques européennes, elles, recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens libanais et israéliens pour le mois à venir, en raison, et vous l'aurez compris, des intenses frappes aériennes et des tirs de missiles entre Israël et le Hezbollah. Et puis un an après les massacres du 7 octobre en Israël, le nouveau ministre de l'Intérieur prend les devants. Bruno Retailleau a demandé aujourd'hui au préfet de renforcer la vigilance lors des rassemblements potentiels à l'occasion de l'anniversaire des massacres du 7 octobre en Israël et du début de la guerre à Gaza, à l'approche de l'anniversaire des pogroms du 7 octobre qui ont coûté la vie à plus de 1195 personnes, dont 42 de nos compatriotes. J'ai donné des instructions claires au préfet pour renforcer la vigilance face aux rassemblements potentiels. C'est ce qu'a déclaré Bruno Retailleau sur son compte X. Le ministre de l'Intérieur a ainsi demandé au préfet de signaler rapidement les rassemblements et mobilisations à venir et à adapter les dispositifs de sécurité en lien avec les services de renseignement. Il a également recommandé d'interdire les manifestations susceptibles de causer de graves troubles et de signaler tout appel ou slogan relevant du champ pénal en lien avec l'autorité judiciaire. Je ne laisserai pas l'antisémitisme prospérer et salir la mémoire des victimes. Nous serons intraitables, a encore déclaré Bruno Retailleau. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir pour cette édition spéciale après l'élimination de Hassan Nasrallah. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de Radio Shalom.